Chapitre 53. Avec un gémissement qui semblait monter de la gorge d'un millier de damnés, une obscurité plus noire que la nuit se matérialisa au-dessus de la tête du sorcier et de ses compagnons. Au bout de la salle, une table de travail explosa, une autre subit le même sort, puis une autre encore, et des éclats de bois volèrent partout dans la bibliothèque. Dans un vacarme de fin du monde, la bête de sang fondait sur Richard et elle dévastait tout sur son passage. Agiel au poing, Kara et Rika se campèrent devant leur seigneur. Si elles affrontaient la bête, Richard savait parfaitement ce qui arriverait. L'idée que Kara soit de nouveau blessée de cette façon-là le rendit foudrage. Saisissant chaque femme par sa natte, il les tira en même temps en arrière et rugit « Ne vous mettez pas sur son chemin !» Anna et Nathan tendirent les bras vers le monstre et le bombardèrent de sortilèges dont la puissance fit trembler les murs de la forteresse. Des points d'air, comprit Richard. En principe assez fort pour repousser n'importe quel agresseur, mais sur la bête de sang, il n'avait visiblement aucun effet. Richard et ses compagnons reculèrent de quelques pas. Le sorcier se baissa pour éviter le plateau de table qui volait vers lui en sifflant et passa à un souffle de le décapiter. Ce projectile alla s'écraser contre une poutre et brisa une lampe. De l'huile enflammée tomba sur le tapis qui s'embrasa aussitôt. Zed lança un éclair de feu blanc qui traversa l'énorme turbulence noire sans lui faire de mal. La lance magique percuta une étagère, créant ainsi un second foyer d'incendie. La salle s'emplit très vite d'une fumée âcre. Les hurlements de pêcheurs torturés de la bête se firent de plus en plus assourdissants à mesure qu'elle approchait. Les lampes s'éteignirent les unes après les autres. Les sorts que lançaient à la hâte Nathan et Anna restaient invisibles pour Richard, mais de toute évidence, ils n'étaient d'aucune efficacité. Au contraire, ils excitaient la bête qui projetait sur ses proies de plus en plus d'éclats de bois. Des poutres s'abattirent et le balcon, privé de ses supports, s'écroula à demi sur le côté puis resta suspendu en équilibre précaire dans le vide. Des dizaines d'étagères se renversaient, livrant à la fureur de la bête une kyrielle d'ouvrages précieux. Alors qu'il réfléchissait aux meilleurs moyens de combattre le monstre, en supposant qu'il en existe un, Richard sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Avec une force étonnante, Nietzsche l'entraînait vers la sortie. Tom montait la garde dans le couloir. Alarmé par le bruit, il entra dans la bibliothèque, évalua la situation en une fraction de seconde, prit le bras libre de Richard et aida Nietzsche à le faire sortir de cet enfer. Protégeant les arrières de leur seigneur, Kara et Rika franchirent le seuil de la pièce sur ses talons. Dans la bibliothèque, la bête de sang continuait sa charge. Anna, Nathan et Zed avaient uni leurs forces pour lancer sur le monstre des sortilèges qui auraient eu raison d'une armée entière. Même s'ils ne pouvaient pas voir les projectiles invoqués par les deux sorciers et la magicienne, Richard eut l'estomac retourné par un tel déchaînement de pouvoir. Une fois hors de la salle, il capta encore l'aura des forces surnaturelles qui tentaient d'abattre la créature de Jagang. Mais rien n'y faisait. Les trois courageux vieillards auraient tout aussi bien pu s'attaquer à des fantômes. Se retournant, Nietzsche expédia sur la bête une boule de feu qui la traversa comme tout le reste et explosa contre un mur. Les flammes se répandirent presque immédiatement sur toute la circonférence de la vaste salle. Extraordinairement puissant, le sort de Nietzsche fit lui aussi trembler les murs de la forteresse. La vive lumière éblouit Richard et ses amis et le vacarme menaça de leur percer les tympans. Couvrant le rugissement des flammes, la bête poussa un cri de fureur. L'attaque de Nietzsche ne l'avait pas blessé, mais il semblait quand même que cette magie était un peu plus forte que celle des trois vieillards. Alors que la bête n'avait jusque-là été ralentie par rien, elle sembla détecter un danger et avança un tout petit peu moins vite. Nietzsche continua à entraîner Richard, qui la suivit dans le couloir sans protester. Laisser Zed face à un tel monstre ne lui plaisait pas, mais comme c'était lui la proie désignée, pas son grand-père, une séparation améliorait plutôt la situation du vieil homme. Cela posé, rien ne garantissait que la fuite soit une bonne solution pour préserver la vie du sorcier.
« Ne te mets pas en travers de sa route !» dit Richard à Tom. « Sinon cette horreur te taillera en pièces. Cette remarque vaut aussi pour vous, Kara et Rika. »«
C'est compris, Seigneur Hall, »
lança Kara.
« Comment allons-nous tuer cette horreur ?»
demanda Tom sans cesser de courir.
C'est impossible,
répondit Nietzsche.
Elle est déjà morte.
Encore une bonne nouvelle, marmonna le colosse blond. Il se retourna pour aider les trois femmes à faire avancer de gré ou de force le seigneur Hall. Richard n'avait pas vraiment besoin d'encouragement pour courir. Les cris des damnés et le souvenir de ses précédentes rencontres avec la créature suffisaient à le stimuler. Dans la bibliothèque, si on se fiait au bruit et à la lueur des éclairs, Anna, Nathan et Zed se battaient toujours contre la masse de ténèbres animées. Richard était certain que ses trois amis perdaient leur temps. La bête était en partie l'œuvre de la magie soustractive et aucun des trois vieillards ne la maîtrisait. Il s'en doutait sûrement, mais il tentait de faire diversion pour laisser aux sourciers le temps de se mettre à l'abri. Contre un tel monstre, les tactiques de ce genre n'avaient guère de chance de réussir, mais l'intention était louable. À une intersection, Richard tourna à droite dans un couloir aux murs lambrissés. Ses compagnons le suivirent, passant avec lui devant de grandes alcôves où étaient installés des fauteuils et des sofas, des sortes de salons où les gens venaient jadis converser amicalement à la lumière tamisée des lampes. Alors que les fugitifs remontaient un corridor plus large aux murs revêtus de plâtre et aux parquets en chêne brute, une cloison explosa devant eux. Alors que des débris volaient vers lui, Richard s'immobilisa dès qu'il aperçut la silhouette sombre de la bête. Sans hésiter, il fit demi-tour et ses compagnons l'imitèrent. Désormais, c'était lui qui fermait la marche et le monstre avait son dos en point de mire. La silhouette noire semblait avoir aspiré sur son chemin d'autres ombres bizarrement distordues. Dans ses entrailles, des formes sombres tourbillonnaient, véritable vortex d'horreur indéfinissable mais pourtant suffisante pour glacer les sangs de n'importe qui. Et si le regard s'y attardait trop longtemps, ce spectacle donnait le tournis. D'ailleurs, il étourdissait même quand on lui jetait un très bref coup d'œil. En même temps, la créature restait assez éthérée pour que Richard, quand il regardait derrière lui, aperçoive la lumière de lointaines fenêtres à travers son corps. Si dépourvue de substance qu'elle fût, cette créature parvenait quand même à détruire les murailles les plus épaisses. Richard ignorait comment on pouvait s'opposer à une entité immatérielle, une sorte de patchwork d'ombre, assez forte pour se jouer d'obstacles en pierre de taille. Il se souvint des hommes de Victor déchiquetés dans la forêt. Sans nul doute, c'était la bête de sang qui les avait ainsi taillés en pièces, et si elle l'avait trouvé ce matin-là, il aurait subi le même sort. Deux sorciers et deux magiciennes avaient tenté en vain d'arrêter la créature de Jagang. Et Nietzsche était en fait davantage qu'une magicienne parce qu'elle avait vendu son âme au gardien en échange d'un certain contrôle de la magie soustractive. Les sorts de l'ancienne maîtresse de la mort n'avaient pas été plus efficaces que ceux de Zed, Nathan et Anna. N'était que la bête avait au moins remarqué qu'on les lui lançait. Nietzsche s'arrêta soudain et se retourna comme si elle avait décidé de défier la créature en duel. Dès qu'il l'eut rejointe, et sans même ralentir, Richard lui flanqua un coup de coude dans le ventre, lui coupant le souffle, puis la chargea sur son épaule comme un vulgaire sac de grains. Nietzsche récupéra très vite et, malgré sa position étrange, lança sur la bête un éclair de lumière blanche qui fit trembler le sol et manqua de déséquilibrer Richard. Une lance de lumière noire frôla le sourcier et la magicienne et alla s'écraser contre un mur. Nietzsche riposta. Au hurlement de douleur qui retentit dans le corridor, Richard supposa qu'elle avait fait mouche.
« Repose-moi »
cria-t-elle en saisissant à deux mains la chemise de Richard.
« Je peux courir toute seule. Je te ralentis et le monstre risque de te rattraper. »
Richard fit basculer la magicienne sur son épaule et son bras droit afin qu'elle reprenne contact avec le sol dans le sens de la marche. Lorsque ses pieds touchèrent le parquet, il garda un bras autour de sa taille le temps qu'elle ait recouvré son équilibre. Suivant Tom, Kara et Rika, Richard et Nietzsche remontèrent d'interminables couloirs, sans avoir la moindre idée d'où ils allaient. Bifurquant au hasard ou négligeant certaines intersections, ils entendaient en permanence le vacarme que produisait le monstre lancé à leur trousse. La créature de Jagang suivait parfois le même chemin que ses proies. Dès qu'elle était distancée, en revanche, elle coupait par les cloisons, les abattant comme si elle avait traversé un rideau de gaz. La pierre, le bois et le mortier ne faisaient aucune différence pour la bête qui les traversait sans la moindre difficulté.
Un monstre invoqué par les sœurs de l'obscurité et lié au royaume des morts avait nécessairement des pouvoirs hors du commun. Mais jusqu'où cela pouvait-il aller ?
Tom, Kara, Rika !
Cria soudain Richard.
Continuez tout droit et tentez d'inciter la bête à vous poursuivre.
Les deux morts de Sith et le colosse regardèrent derrière eux sans cesser de courir et hochèrent la tête.
La bête ne les suivra pas,
souffla Nietzsche.
Je sais, mais j'ai une idée. Reste avec moi. Je vais m'engager dans cet escalier devant nous.
Lorsqu'il fut au niveau de la cage d'escalier, ses trois compagnons l'ayant dépassé, Richard s'accrocha à la grosse boule noire du départ de la rampe, fit un quart de tour sur lui-même et tourna sur la droite. Nietzsche imita la manœuvre, puis s'engagea à son tour dans l'escalier. La créature suivit sa proie. Renversant le premier poteau de la rampe, elle commença de dévaler les marches alors que des fragments de granit volaient encore dans les airs. Kara, Rika et Tom s'arrêtèrent en catastrophe sur le sol de marbre glissant. Au lieu de les suivre, le monstre avait choisi de traquer leur seigneur. Ils revinrent donc sur leurs pas et commencèrent la descente. Nietzsche et Richard dévalaient les marches trois par trois. Dans leur dos, la bête hurlait de colère et de haine. Au pied de l'escalier, Richard tourna à droite et s'engouffra dans un corridor au mur de pierre. Emporté par son élan, la créature percuta un mur qui vola en éclats. Bien entendu, cet obstacle ne l'arrêta pas longtemps. Dès qu'il rencontra un nouvel escalier, le sorcier s'y engagea et descendit à la course les trois volées de marche qui menaient jusqu'en bas. Le très large couloir dans lequel il déboucha avait un sol garni de tapis disposés à intervalles réguliers. Conscient du danger de s'y prendre les pieds, Richard avança plus lentement et fit signe à Nietzsche d'être prudente. Sur le passage du sorcier, de gros globes de verre posés sur des supports s'illuminaient pour éclairer le chemin. La poursuite continuait car la bête n'avait toujours pas renoncé. Pour descendre l'escalier suivant, très nettement en colimaçon, Richard sauta sur la rampe et se laissa glisser jusqu'en bas. Ayant eu la présence d'esprit d'imiter son ami, Nietzsche lui passa un bras autour du cou pour assurer son équilibre et se laissa également glisser. Grâce à leur brillante initiative, les deux fuyards gagnèrent un peu de terrain sur le monstre. Au pied des marches, ils sautèrent de la rampe et se réceptionnèrent souplement sur le sol au carrelage vert. Dès qu'il eut recouvré son équilibre, Richard s'empara d'un des globes lumineux et repartit au pas de course.
« Plus vite !»
lança-t-il à Nietzsche, qui avait elle aussi arraché un globe de son support. Choisissant leur chemin au hasard, histoire de déconcerter la créature, Richard et Nietzsche réussirent par moments à prendre pas mal d'avance. Mais la bête profitait des couloirs en ligne droite pour regagner le terrain perdu. À la lueur de leur globe, Richard et Nietzsche virent qu'ils passaient devant toute une enfilade de pièces à la porte souvent ouverte. Pour ce qu'ils purent observer, le sorcier et la magicienne trouvèrent un côté fort opulent à ce cadre. Plusieurs escaliers et corridors plus loin, la configuration des lieux ne changea pas, mais les pièces devinrent nettement moins luxueuses. Dans la grande salle que Richard et Nietzsche durent traverser, l'économie de moyens pouvait aisément passer pour une manifestation de pingrerie, car on ne voyait pas un meuble à 100 pas à la ronde et la décoration se réduisait au strict minimum. Au-delà de cette salle, les protections devinrent plus sérieuses. En sa qualité de sorcier de guerre, Richard pouvait se contenter de les franchir comme si de rien n'était. Tom et les deux femmes, en revanche, seraient bloqués et ça leur épargnerait de connaître le même sort que les hommes de Victor dans la forêt. Comme il ne prit bien entendu pas la peine de neutraliser les sorts de garde, Richard supposa que Kara serait folle de rage dès que des champs de force lui bloqueraient le passage. Avec un peu de chance, il vivrait assez longtemps pour se faire passer un savon. Le sorcier et sa compagne traversèrent en un éclair ce qui devait être l'entrepôt d'un artisan maçon. Richard reconnut sans peine les outils qu'il avait vus lors de son long séjour dans la cité natale de son pire ennemi. En un temps remarquablement court, Nietzsche et son protégé eurent traversé l'entrepôt. De l'autre côté de ce passage, ils débouchèrent dans une carrière intérieure aux parois vertigineusement hautes. Sans cesser de courir, Richard se demanda si sa compagne et lui sortiraient vivants de ce labyrinthe minéral. En attendant, il tourna brusquement à droite, le bruit des pas de Nietzsche suffisant à lui indiquer que la magicienne tenait toujours le choc. Mais elle devait être épuisée et souffler un peu ne lui ferait pas de mal. Plus très frais non plus, Richard ralentit le pas. Partout autour de lui, Des centaines de damnés continuaient à hurler à la mort. Cela ne semblait pas connaître la fatigue. Richard tenta en vain d'apercevoir le bout du couloir où sa compagne et lui avançaient à un rythme légèrement moins soutenu qu'avant. Et dire qu'il y avait des centaines de couloirs similaires dans le complexe. Quand ils atteignirent une nouvelle intersection, Richard tourna sur la gauche et remonta un couloir très court qui se terminait sur un escalier de fer. Alors qu'il tentait de reprendre son souffle, le sourcier jeta un coup d'œil derrière lui et vit que la masse noire venait de négocier le tournant. Poussant Nietzsche devant lui, Richard dévala les marches. En bas, ils se retrouvèrent au milieu d'une petite pièce carrée d'où partaient trois couloirs. Grâce à son globe lumineux, le sourcier put jeter un bref coup d'œil dans chacun de ses passages. Après avoir fait chou blanc avec les deux premiers, il aperçut une lueur dans ce qui devait être le bout du troisième. Nietzsche sur les talons, Richard traversa le petit tunnel qui devait passer sous un large corridor, quelque part au-dessus de leur tête. Au-delà s'étendait une sorte de hall d'entrée, aux murs très bizarrement décorés de minuscules fragments de verre colorés qui composaient une série de figures géométriques hautement complexes. La lumière des deux globes faisait briller ces symboles de mille feux, comme s'il avait pu y avoir un lever de soleil jusque dans les entrailles de la terre. La seule sortie se trouvait sur le mur d'en face. Richard tituba un peu puis s'arrêta. L'étrange salle lui donnait la chair de poule, comme si une colonie entière d'araignées marchait le long de ses membres. Nietzsche se passa une main sur le visage comme si elle essayait d'en décoller quelque chose. Ce genre de sensation ici était un avertissement, une manière très impérieuse d'inciter les intrus à ne pas aller plus loin. La porte de sortie était flanquée de deux petites colonnes en pierre polie tachetée de jaune qui soutenaient un entablement. Au-delà de cette entrée ornementée, le passage suivant, à peine assez haut pour que Richard n'ait pas besoin de baisser la tête, semblait d'une banalité affligeante. Un tunnel carré aux parois et au sol de pierre brute plongé dans de profondes ténèbres fort peu engageantes. L'entrée semblait un peu prétentieuse comparée à la suite. Mais il y avait une excellente raison à ça. Enfin, si Richard ne se trompait pas. Lorsqu'il eut franchi la colonnade dorique, Nietzsche à ses côtés, une chiche lumière rouge éclaira le chemin et un curieux bourdonnement se répercuta dans tout le tunnel.
« Un champ de force !»
souffla Nietzsche soudain tendu comme un arc. « Je sais, » dit Richard. Il prit son ami par le bras et la força à continuer.
« Richard, tu ne passeras pas. Ce n'est pas une protection classique. » Je capte une combinaison de magie additive et de magie soustractive. Les défenses de ce type sont mortelles et sans coup de semonce. »
Regardant derrière lui, Richard vit très brièvement la masse noire qui les suivait en tentant de se dissimuler derrière les colonnes. « Ne t'inquiète pas, mon ami. J'ai déjà traversé des tunnels au moins aussi dangereux. » Richard affichait une confiance qu'il n'éprouvait pas. Si le champ de force était identique à ceux qu'il avait pu franchir lors de précédents séjours à la forteresse, tout irait pour le mieux. Mais les sorciers cherchaient sans cesse de nouvelles armes censées neutraliser la magie adverse. Si un sortilège défensif inédit les frappait de plein fouet, les intrus seraient au minimum rudement secoués. Pour sortir de la salle, Richard et sa compagne n'avaient que deux options. Reculer pour se jeter entre les griffes du monstre, ou tenter le tout pour le tout et avancer à l'aveuglette.
« Dépêchons-nous !»
lança Richard. Nietzsche décida de se jeter à l'eau.
« Richard, nous ne pourrons pas traverser, sinon le labyrinthe nous fera fondre la peau sur les os. »«
Tu ne pourrais pas me croire une fois de temps en temps. Je t'ai dit que j'ai déjà réussi à passer.
Quelqu'un qui maîtrise bien la magie soustractive comme toi devrait en sortir à peu près entier.
Nietzsche, si nous reculons, la bête nous aura. Il n'y a qu'une seule chance, le tunnel. »
Avec un soupir résigné, l'ancienne maîtresse de la mort consentit à suivre son protégé.
« Gare à toi si tu te trompes, »
grommela-t-elle pour la forme. Au cas où il aurait été impératif de naître avec le don soustractif, Richard prit la main de son ami. Nietzsche avait appris à utiliser la variante obscure du pouvoir. Si elle avançait seule, elle risquait la mort. Même s'il n'était pas un expert en magie, Richard savait qu'être né avec le don faisait une énorme différence. En cas de pépin, il pourrait protéger Nietzsche, s'il réussissait à se défendre lui-même, évidemment. Une brume rouge flottait maintenant devant l'entrée du couloir. Sans lâcher la main de Nietzsche, Richard se rua en avant. Nietzsche cria comme si elle était sur le point de s'évanouir. Une énorme pression pesait sur son corps fin et délicat, menaçant de lui faire imploser le cœur. Richard dut combattre cette pression pour continuer à avancer. Quand on franchissait l'entrée, on était exposé à une chaleur infernale. Au contact de cette fournaise, le sorcier crut avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Nietzsche avait eu raison et il allait griller comme un cochon de lait bien gras. Même si l'intense chaleur le fit légèrement tressaillir, Richard parvint à convaincre ses jambes de le porter un peu plus loin. Jusque-là, il restait vivant et il n'avait pas subi grand-chose d'horrible, tout bien pesé. Il y avait quand même un problème. Vu de loin, le passage ressemblait à un simple tunnel de pierre grise. Lorsqu'on se trouvait à l'intérieur, la perception changeait radicalement. La pierre polie brillait et sa surface ondulée aux reflets d'argent évoquait les eaux paisibles d'un lac. La bête était déjà en train de traverser la petite salle. Décidément, elle ne laisserait pas de répit au sorcier. À bout de force, il ne courait plus. « L'enjeu est simple, » dit-il à Nietzsche. « Vivre ou mourir, et c'est là que ça se décide. »